Je suis devenue photographe parce que je n'ai pas de mémoire. La photographie m'a permis de reconstituer les albums de famille que je n'ai jamais eus, les images manquantes devenant le moteur de ma recherche. Les planches contact sont mon journal intime. Patrick Zachmann est ce soir notre invité à l'occasion d'une double actualité, un livre et une exposition qui va commencer dans quelques jours. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Talila, un blues yiddish. Il est venu avec son casque de moto, qu'il a posé d'abord sur la table du studio, puis par terre, et avec un gros sac à dos, il vient de sortir de son sac à dos un gros appareil photographique, et pendant que nous écoutions cette très belle chanson de Talila, il l'a sorti. Qu'est-ce que vous avez fait, Patrick Zachmann, là, pendant qu'on écoutait cette belle chanson?
Je me suis permis, sans vous demander l'autorisation, de vous photographier.
Mais ça n'a pas fait de bruit.
Ah ben non,
il n'y a pas eu de clic.
Hein, ils sont silencieux maintenant, les appareils d'aujourd'hui.
Oui. Voilà. Et vous aussi, vous êtes silencieux. Vous n'aimez pas beaucoup parler.
Oh, pas vraiment, mais j'aime le silence. Ouais, j'aime le silence et j'aime surtout en fait ce que représente pour moi la photographie, c'est-à-dire un moyen de tenter de capter ce qu'on n'arrive pas à dire, ce que les tabous, les non-dits. Ça, je trouve que la photographie est très forte, très puissante pour ça, contrairement au cinéma. Voilà, donc c'est pas que j'aime le silence, mais je suis un peu traumatisé, à vrai dire, par le silence. Voilà, le silence de mes parents, le silence des grands-parents, puisque je les ai pas connus. Et comme dans beaucoup de familles, en fait, de rescapés, les parents, les descendants, donc les parents n'ont pas pu parler, donc ont gardé le silence.
Donc la culture du silence est la culture dans laquelle vous avez été élevé. Mais ce qui est assez incroyable dans votre histoire, Patrick Zachmann, c'est que vous avez commencé par enquêter en tant que photographe dans les milieux Lubavitch, c'est-à-dire les milieux orthodoxes, sans savoir du tout d'où vous étiez issu et de quelle histoire familiale vous aviez hérité. Et vous étiez déjà à la recherche de peut-être d'une tentative de briser le silence de vos propres parents.
Oui, c'est-à-dire à l'époque, dans les années 80, j'ai commencé cette enquête d'identité, enquête en un seul mot, parce que pour moi c'était comme voilà une investigation, parce que j'en ressentais le besoin en fait de comprendre de comprendre ce que voulait dire tout simplement être juif, parce que ça on nous l'a jamais caché, hein, on le savait, mais on ne connaissait pas l'histoire familiale, on ne connaissait rien du judaïsme, rien de la religion. Mes parents n'étaient pas ma mère était croyante mais plus pratiquante, et mon père était athée, anti-religieux même, et très républicain. Donc nous, on a grandi dans un milieu, dans une atmosphère vraiment de laïcité, de respect un peu des valeurs républicaines, de ce rêve un peu républicain, et en fait de rêve d'assimilation. Et donc
rêve ou réalité ?
Rêve, pour moi.
Ils n'ont jamais été assimilés.
C'est-à-dire
ils ne se sont jamais perçus comme assimilés.
Je pense que ma mère surtout rêvait d'ascension sociale. Elle venait d'un milieu très très modeste en Algérie, et mon père aussi d'ailleurs, mais du côté de Belleville, et ses parents venaient de Pologne. Mais quand je dis illusion, parce que en tout cas en ce qui me concerne, ça n'a pas vraiment marché. Heureusement d'ailleurs, parce que
pourquoi photographe, c'est un métier noble.
Je parlerai d'intégration. Voilà, mais d'assimilation, pas vraiment, parce que de toute façon, ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'assimilation. Pour aller jusqu'au bout de l'assimilation, il faudrait déjà changer de nom, parce que la force du nom compte et finalement impacte sur votre vie. C'est-à-dire quand on s'appelle Zachmann, on s'appelle pas Bonnet ou voilà.
C'est mais il y a beaucoup français. De Juifs en France qui vivent sans changer leur nom et qui se sentent totalement citoyen français. On n'est pas obligé de changer de nom.
Mais moi, je me sens citoyen français. Je me sens tout à fait français, mais juif aussi.
Et c'est un honneur pour vous ?
De quoi ?
D'être juif ?
Oh non, c'est pas un honneur. C'est ni une honneur.
C'est quoi, alors ?
J'ai toujours été agacé par ce côté, voilà, être même fier d'être. D'être juif, d'être arabe, d'être gitan, je trouve qu'il n'y a pas de fierté à ça. On peut être fier de ce qu'on fait, mais pas de ce qu'on est.
Mais vous dites français ou français juif ou juif français ?
Moi, je me dis français et juif. Voilà, comme je me dis photographe ou artiste et juif. Je me sens pas un artiste juif. Je me sens artiste et juif. Donc voilà,
mais c'est très intéressant ce que vous dites là, Patrick Zachmann, parce que vous ne cessez depuis des décennies d'essayer de tenter de circonscrire ce foutu mot d'identité. Et quand vous avez commencé chez les juifs orthodoxes à essayer de comprendre la manière dont ils vivaient, à s'approcher d'eux, vous disiez eux c'est les juifs, mais moi je suis pas juif.
Oui, voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, diriez quoi ?
En tout cas, à l'époque, pour moi, c'était eux les juifs, parce que c'était...
Les juifs, ça veut dire que vous étiez, vous pour considériez moi, pas
non,
comme juif.
Non, parce que je savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas mon histoire, l'histoire familiale, comme vous disiez. Je ne savais même pas d'où venaient vraiment mes parents, ou je savais qu'ils venaient de Pologne du côté de mon père, d'Algérie du côté de ma mère, que mes grands-parents paternels avaient été, déportés à Auschwitz et assassinés là-bas, mais je savais rien d'autre. en fait. Donc, quand on connaît pas son histoire, d'où on vient, ses racines, ce que ça signifie, comment peut-on construire son identité? Il faut qu'on nous transmette une mémoire familiale, des récits, pour qu'on puisse se forger une identité. Et moi, j'avais une identité, mais totalement, cabossée, fragmentée, etc. Donc j'ai eu besoin vraiment de faire ça.
Donc la photographie, comme acte et comme pratique, est venue réparer des oublis de mémoire.
Absolument, absolument. Et donc, quand je disais, effectivement, les juifs religieux, c'était les juifs et pas moi, c'est parce que c'était, en fait, dans un sens, les juifs les plus visibles. Et dans mon enquête photographique, j'ai commencé par ça parce que c'était le plus facile finalement. Et d'ailleurs, dans la représentation visuelle classique, traditionnelle qu'on a des juifs, en peinture, en photographie, c'est souvent des juifs religieux parce que c'est plus facile. Mais petit à petit, j'ai essayé de m'en éloigner. Ça se voit.
Entre guillemets.
Voilà. Mais de petit à petit, j'ai essayé de m'en éloigner et de m'attaquer en fait à des identités beaucoup moins visibles, beaucoup plus complexes, jusqu'à l'identité invisible. C'est-à-dire une identité intérieure. Et là, j'ai commencé en fait à m'identifier à mes modèles, à mes sujets, qui étaient des juifs que je ne connaissais pas au départ, ordinaire. Et là, j'ai pu m'identifier à eux parce qu'ils n'avaient plus ces signes en fait de judéité extérieure.
Je vous propose d'écouter un extrait de votre film que vous avez tourné en 2017, La mémoire de mon père.
Oui, à ce propos. On racontait une histoire à cette époque-là d'un juif polonais qui était venu en France aussi, comme par exemple comme mon père, et qui n'avait jamais perdu son accent. Il avait un accent juif polonais profond, terrible. Mais lui, il avait voulu changer de nom. Il avait fait la demande à la préfecture et quelques mois après, il a reçu une convocation pour aller à la préfecture. Il s'est déplacé et il est tombé à un guichet devant une jeune femme, une jeune personne, c'est bien de ça, et qui lui a demandé, alors vous avez voulu changer de nom? Il a dit, oui, oui, madame, oui. Et comment vous vous appelez actuellement? Alors il lui a dit, Probusalina Khoylelevich. Elle dit, comment? Il répète, Probusalina Khoylelevich. Elle dit, vous m'appelez? Dites vous aussi, mademoiselle, vous me plaît beaucoup.
Donc, vous avez attendu longtemps pour poser des questions à votre père.
Oui, oui.
Pourquoi?
Écoutez, pendant longtemps, j'ai pensé que c'est mon père qui ne pouvait pas parler. Ce qui était à moitié vrai. C'est-à-dire que son histoire était tellement douloureuse que effectivement il avait envie, je pense, d'oublier et de ne pas en parler. Mais je pense qu'après, et surtout après avoir fait mon film, La mémoire de mon père, j'ai compris que c'est moi aussi qui avais été incapable de lui poser les questions, de l'interroger avant, je pense de peur, de le blesser, j'avais peur. Et il m'a fallu un peu ce courage de prendre la caméra, parce que souvent la photographie en fait ne me suffit pas. J'ai besoin du son, j'ai besoin de la parole des autres et même de la mienne. Et j'ai pris une caméra et un micro. C'était mon premier film et je l'ai interrogé. Et en fait, il m'a raconté. Alors évidemment qu'il m'a pas tout dit, mais c'est pas grave. Il m'a parlé. Déjà, le silence a été rompu. Et comme je le raconte dans le film, d'ailleurs, qui sera dans l'exposition. Au début, j'avais fait pour mon livre Enquête d'identité, j'avais fait des portraits de lui en face à face. Et que j'avais pas mis dans le livre parce que j'ai trouvé pas bon. Et je me suis interrogé.
Ça veut dire quoi, pas bon?
Bah voilà, c'est une bonne question. Je pense que c'était parce que il manquait de sincérité, il était pas proche de moi, tout simplement. Il y avait pas d'émotion. Il était en retrait. Il y avait de la distance. Et le film m'a permis de rompre cette glace, ce silence. Et je me suis senti proche, il s'est senti proche de moi, et j'ai fait un portrait très simple, qui est dans l'exposition et dans le film, très simple, très frontal, mais très émouvant, parce qu'on sent qu'il se livre, il s'est laissé aller et il s'est livré. Et c'est ça la photographie. C'est... De toute façon, avec la photographie, je pense qu'on ne triche pas. On ne triche pas.
Alors, votre exposition et votre livre s'intitulent « Voyage de la mémoire ». Ce que vous nous dites là, Patrick Zachmann...
Voyage de mémoire
rencontre beaucoup d'interrogations et suscite beaucoup de questions. Avec la génération de vos parents, qui étaient des porteurs de mémoire, disparaît aussi la possibilité de transmettre oralement. Vous avez mis des décennies à faire parler votre père de ses propres parents et de leur disparition tragique à Auschwitz. Que va-t-il se passer pour les jeunes générations et après votre disparition? Comment cet acte de mémoire que vous avez réussi à susciter va-t-il être entretenu?
C'est un peu la grande question et un peu la peur qu'on peut avoir pour les générations futures. C'est pour ça, je pense que on emmagasine, on enregistre, on capte sans arrêt des éléments de mémoire pour eux. Moi, je vais laisser derrière moi, voilà, des livres, des films, des enregistrements, des écrits, et tout le monde fait ça. On est même dans une société qui fait une espèce de surenchère de mémoire parce qu'on a peur. Je pense parce qu'on a peur. Enfin, même on a des disques durs de mémoire et tout parce que je pense que ça va trop vite, tout va trop vite, et en plus, il y a bien évidemment et malheureusement des gens qui déconstruisent l'histoire et qui la déforment.
Et surtout en ce moment, notamment
voilà le négationnisme, le déni de ce qui s'est passé, pas seulement pour les juifs. Dans cette exposition, qui d'ailleurs ne se réduit pas, ne se limite pas à la question juive, d'ailleurs, Paul Salmona, le directeur du MAJ, et moi, on a tenu à ouvrir un peu, parce que j'aurais pu ne mettre que des images et des photos de juifs dans le monde et tout, j'ai pas voulu. J'ai donc intégré dans la deuxième partie qui s'appelle « Enquête de mémoire », en fait, dans le livre, des images de, par exemple, de au Rwanda, que j'ai fait en 2000, donc 8 ans quasiment après le génocide des Tutsis par les Hutus, drame dont on ne parle pas beaucoup finalement. J'ai tenu à intégrer cette série de portraits assez forts de rescapés Tutsis en vertical, en panoramique, pour faire résonner aussi mon histoire personnelle avec celle des autres. Et moi, c'est toujours, je pense, ça a toujours été ma démarche, c'est-à-dire que je parle de moi, mais à travers les autres. C'est-à-dire que je suis curieux des autres, je suis curieux du monde, je n'aime pas, je pense pas être égocentré, même si je parle de moi et de mon histoire. Vous savez, Diane Arbus, qui est une grande photographe américaine, qui d'ailleurs s'était suicidée, juive aussi, qui a passé sa vie à prendre des photos de marginaux, de gens laissés pour compte, ou de gens bizarres, etc., disait, je cite de mémoire, c'est « plus vous êtes spécifique, et plus vous serez universel ».
Alors, il faut dire que depuis des décennies, depuis vos débuts en photographie, Patrick Zachmann, vous êtes porté aux avant-postes des tragédies contemporaines. Vous étiez là lors des moments les plus tragiques de notre histoire contemporaine. Et vous étiez là lors de la tragédie du Rwanda. Vous avez fait toute une série de photographies bouleversantes. Il y a aussi un journaliste qui est devenu écrivain à cause de cette histoire de tragédie. Il s'appelle Jean Hatzfeld. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de son travail sur les rescapés. Il continue à aller au Rwanda. Et je vous propose de l'écouter. C'était au moment de la publication de son livre admirable qui s'intitule « Dans le nu de la vie ». On écoute Jean Hatzfeld. C'était le 3 novembre 2003.
Il y avait chez moi aucun sens de la responsabilité. Il y avait une énorme curiosité. C'est-à-dire une sorte de contamination de l'événement, si je puis m'exprimer ainsi. J'étais très touché, mais touché au sens un peu malsain du terme, par cette histoire du génocide. Ça m'a contaminé d'une certaine façon. Alors c'est un mot un peu grandiose, enfin un petit peu bizarre, mais c'est un peu ça qui s'est passé. J'étais un peu contaminé par le mal, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à travailler avec les rescapés, parce que là, je voulais faire ce livre sur les rescapés. Je savais ce que c'était que l'effacement du rescapé, le silence du rescapé, l'isolement du rescapé, son souci et sa volonté de s'écarter du monde. Donc ça, je savais ça, parce que j'avais lu Primo Levi, parce que j'avais lu beaucoup de choses sur le génocide juif, et donc j'ai voulu travailler dans ce sens. Concernant les tueurs, pour répondre à votre question, il y avait de plus en plus, travaillant avec les rescapés, une curiosité, c'est-à-dire quand même, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas été des gens que j'ai pu connaître au Liban ou en Bosnie, donc des paramilitaires ou des barbouzes, c'était des gens qui étaient juste à côté et qui semblaient sympathiques. Donc il y avait cette première curiosité. Il y avait quelque chose d'autre qui était que, ne pouvant me débarrasser de cette histoire d'une certaine façon, faire ce deuxième livre, même sans trop y croire, ça me permettait de rester dans l'histoire. C'est-à-dire, ça me permettait physiquement de continuer à aller là-bas, donc à Niamata, de continuer à sillonner les collines, de parler, d'être là-bas avec eux. Et puis, dès lors que j'ai commencé à pénétrer ce pénitencier et entamer ce dialogue avec ces gens-là, ne comprenant pas pourquoi eux acceptaient de me parler et de travailler comme ça pendant 2 ans avec moi, et du fait de leur attitude, de leur sérénité, de leur calme, de leur placidité à répondre, ça m'intriguait de plus en plus et donc ça prolongeait le désir de continuer.
Nous venons d'entendre Jean Hatzfeld parler de « Dans le nu de la vie », c'est un travail de mémoire qu'il continue. C'est un travail de témoignage, de réflexion à la fois anthropologique, philosophique, humaniste. Et quand on voit votre travail photographique, Patrick Zachmann, sur les rescapés du génocide dans l'après-tragédie, on se dit que c'est aussi pour que ça reste dans notre mémoire collective.
Le travail qu'a fait et continue de faire Jean Hatzfeld est absolument remarquable. Surtout même dans l'écriture, parce qu'il donne la parole à ses rescapés et il la restitue dans leurs mots.
Et c'est ça. Alors justement, vous n'avez pas les mots, alors il faut parler non. De votre travail de cadrage, de votre noir et blanc et de oui. Votre travail d'approche de chaque personne.
En ce qui concerne les photos de rescapés dans l'exposition Hommage, il y a une série de rescapés en fait juifs des camps nazis que j'avais fait en Israël et une série de des rescapés tutsis. Dans les deux cas, en fait, je pense que c'est inconscient, mais j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je les ai extraits de l'événement auquel ils assistaient, ils participaient. En Israël, c'était le premier rassemblement des rescapés des camps nazis qui avait lieu. J'avais repéré un mur très neutre, comme ça, et je les faisais poser devant. Au Rwanda, pareil. Pourquoi ? Parce que je voulais décontextualiser et puis rendre ces moments intemporels, en fait. Intemporels. Et silencieux. Aussi. Donc moi je leur parlais pas, je leur expliquais évidemment au début pourquoi je voulais faire ces portraits, parce qu'il faut toujours expliquer, il faut toujours voilà, les gens ils n'acceptent pas comme ça s'ils savent pas, donc c'est normal, il faut expliquer. Mais après je me tais et c'est l'appareil photo qui enregistre. Tout ça, c'est vrai que par exemple ces deux séries mais aussi celle que j'ai faite et qui est dans le livre et aussi dans l'exposition Hommage, Voyage de mémoire, il y a une série sur les disparus en fait du Chili, auquel j'ai consacré pas mal de temps, à travers des paysages panoramiques que j'ai prises dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama.
Pourquoi ? C'est-à-dire le lieu où les hélicoptères balançaient les corps du temps de la dictature.
Enfin, il est balancé dans la mer, ouais. Et sinon, il y a la caravane de la mort qui est passée par là. Et il y a notamment, en plein désert, où il y a absolument rien. Il y a même pas un insecte qui survit dans ce désert le plus sec au monde. Eh bien, il y avait une ancienne mine de salpêtre qui a été transformée par Pinochet en une prison pour détenus politiques. Et donc je suis retourné là-bas, par exemple, et pareil quoi pour la mémoire. Et en fait, rien n'indiquait.
Donc le mot de lieu de mémoire, quand on voit vos photographies, Patrick Zachmann, il existe vraiment.
Le mot mémoire.
Lieu de mémoire. Les lieux possèdent une mémoire.
Les lieux possèdent une mémoire, bien sûr. On peut pas, de toute façon, la cacher. Enfin, et même quand il y a une volonté de cacher, comme au Chili, hein, on a caché là, pendant des années, l'histoire aux Chiliens et au monde, évidemment. Mais en fait, elle ressurgit. Elle ressurgit et les lieux, ils existent. Il suffit. Il y a une très belle histoire au sujet de ce lieu. Dans l'Atacama, dans le désert de l'Atacama, cette ancienne
mine. J'ai les photos devant moi, et effectivement, ben, vous pouvez peut-être les décrire, il ne reste rien. Des cicatrices, de vagues...
Voilà, ce sont des traces, ouais. Des cicatrices, des pierres, mais dans les pierres, on imagine ce qui s'est passé, on imagine le temps, mais il y a quand même... par exemple, une route prise de loin, une route qui, moi, m'évoque un peu une faille. Donc pour moi, c'est un peu la faille de la mémoire. Ces paysages, en fait, sont des métaphores. Mais il y a quand même, voilà, il y a une photo, il y a des rails qui mènent à une ancienne mine, au loin, très petite. Moi, évidemment, ça m'évoquait les rails, des trains qui allaient à Auschwitz. Mais ça, c'est moi. Un lecteur peut imaginer autre chose. Et puis, il y a ce cactus géant. Candelia, ça s'appelle, ce cactus géant qui a une forme de Christ. Ce sont des métaphores. Et ce que je voulais dire, c'est que dans ce lieu de mémoire, qui est cette ancienne mine de salpêtre de Chacabuco, transformée par Pinochet en centre de détention, rien n'indiquait que ça avait été un centre de détention. Et en fait... quand je faisais mon film, j'ai fait un film là-dessus qui s'appelle Aller-retour. J'ai connu le gardien de cette mine qui se visite. On peut visiter l'ancienne mine de Salpêtre, mais rien n'indique que c'était un lieu de détention. Et lui, en fait, en parlait et je l'ai interviewé, je l'ai filmé et en fait. J'ai compris, il m'a dit que c'était un ancien détenu. Et il revenait là, et il dormait là, il vivait là, parce qu'il était le gardien du temple, comme ça, de ce lieu de mémoire. Il voulait lui redonner sa véritable histoire.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Patrick Zachmann, Rita Mitsouko, Le Petit Train. Merci pour ce choix, Patrick Zachmann. Pourquoi Le Petit Train d'Erita Mitsuko ?
Déjà, j'adore l'Erita Mitsuko, d'une façon générale, mais cette chanson me plaît parce que, en fait, elle est très guillerette, elle est très joyeuse, et on pourrait passer complètement à côté du message, parce qu'en fait, il s'agit d'un petit train, mais d'un petit train de la mort. Et en fait, Catherine Ringer, quand elle parle de son père, qui a été déporté, qui a fait même 9 camps, si je ne me trompe. Et donc, j'aime bien parce que ça parle aussi, quelque part, du silence aussi, du silence des autres, du silence de ces Polonais et Polonaises qui étaient au champ, c'est ce qu'elle dit un peu, et qui ne savaient pas ou qui ne voulaient pas savoir. Donc, j'aime bien cette chanson.
Vous êtes parti en essayant de comprendre quels étaient les trajets, les raisons, le courage qu'il fallait à des migrants pour pouvoir venir jusqu'à nos rivages. Vous en avez tiré des expositions photographiques et un livre admirable qui s'intitule « Marée, ma terre ». Je crois que ce voyage a commencé à la fois dans des bateaux et puis ensuite... en travail avec des jumelles pour essayer de venir au secours des migrants sur des canaux. Ce travail a commencé en 2009. Nous sommes en 2021. Les choses ont-elles changé, selon vous, Patrick Zachmann ?
Non. Pas beaucoup, je crois pas, non. Malheureusement, le problème des migrants est un problème récurrent. C'est vrai que à l'époque, quand je me suis intéressé à cette vague migratoire impressionnante, c'était aussi parce que à ce moment-là, peu de gens en parlaient, vraiment peu de gens. Et moi, j'avais lu un reportage formidable dans Le Monde de l'ambassadeur à ce moment-là à Malte. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir. J'ai été à Malte, j'ai été à Lampedusa, j'ai été en Grèce, dans les îles, j'étais un peu partout. Parce que je voulais comprendre ce qui les poussait, ces jeunes migrants, souvent en grande, immense majorité aujourd'hui aussi, ce sont des hommes, des jeunes hommes, qui quittent leur terre, qui quittent leur mère aussi. Alors ça, à ce moment-là, je le savais pas vraiment consciemment. C'est ça que j'aime bien dans la photographie aussi, et que j'utilise dans le processus photographique, c'est l'intervention de l'inconscient. Et quand je dis que je ne savais pas, c'est vrai, je me suis aperçu qu'après, en fait, ils s'arrachaient à leur mère, et très souvent, c'était des jeunes hommes qui venaient du Maghreb et qui étaient quand même sous l'emprise aussi de du pouvoir de la mère. Et c'est ce qu'on dit rarement, hein, en fait. On dit que voilà, ils partent poussés par la misère, par le chômage, etc. Mais c'est vrai, mais c'est pas que ça. En fait, on comprend rien quand on dit que ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils s'émancipent de leur mère. Ils traversent la mer pour s'émanciper de leur mère.
Oui, vous n'êtes pas seulement un photographe, vous êtes aussi un enquêteur, un anthropologue, un sociologue. Et quelqu'un qui, à chaque fois qu'il prend un sujet, essaye d'individualiser chaque parcours et de nous le faire comprendre. Et ainsi, suivre la route des migrants et faire cette série de photos bouleversantes vous a introduit dans un aller-retour permanent entre le conscient et l'inconscient, Patrick Zachmann, vers la possibilité de parler à votre mère. Je vais citer un court extrait de la fin de cette exposition Marée Mater, où vous écrivez ceci dans le dialogue que vous avez eu à votre mère. Moi, tu as tout jeté du passé, toi? Ma mère, tout, j'ai rien, je regrette. Enfin, pour moi, c'est fini, à quoi ça sert? Mais pour vous, oui, c'est dommage, il y avait rien. J'ai tout enlevé, c'est bizarre. Moi, t'as tout enlevé, quoi? Bon, les photos, j'avais des photos quand même. J'étais revenu d'Algérie avec des photos, avec des journaux tout pleins d'Algérie. Et vous, Patrick Zachmann, vous nous faites comprendre que votre mère, en vieillissant, a perdu un peu ses moyens, sa mémoire, Et là, vous êtes là pour réparer, pour combler, pour collectionner.
Oui, c'est un moment pour moi très fort, quoi. Quand je fais là, je l'interviewais, j'étais derrière la caméra. Et d'ailleurs, dans l'exposition Voyage de mémoire hommage, je montre le teaser de ce film. Et c'est un moment très fort parce que, en fait, elle est en train de me dire, et moi, je suis en train d'apprendre que, contrairement à ce que je pensais, il y avait des photos. Elle avait des photos du passé. Elle avait des documents et elle a tout jeté. Elle a tout jeté. Et j'en revenais pas, c'était un choc. Et d'ailleurs, elle dit ensuite, tu te rends compte, moi j'ai tout jeté, les photos et tout, et toi t'es devenu photographe.
Mais c'est sûrement pas un hasard.
Non, c'est pas un hasard.
D'ailleurs, c'est pas un hasard non plus si votre nouvelle exposition à Paris se termine par des photos incroyable de votre mère à l'hôpital. Elle vous tend les bras, elle vous tend les mains, elle tend son regard vers le vôtre. Et vous, vous êtes là, comme dans ce studio aujourd'hui, vous êtes là aussi avec la caméra. Et on pourrait penser que peut-être c'est obscène de venir dans une chambre d'hôpital avec une caméra, un appareil photo. Non. Pourquoi ?
Je pense que ça peut être obscène. Ça dépend complètement qui le fait et comment il le fait. Là, je pense pas du tout que ça soit obscène parce que il y avait une relation là à ce moment-là extrêmement tendre. Et puis voilà. Et il y a un moment aussi. Il y a un moment où j'ai, je le dis d'ailleurs, où j'ai arrêté de filmer parce que je trouvais que ça devenait un peu cruel, mais c'est sûr que le photographe ou le caméraman, il doit, c'est comme un peu le médecin, je veux dire, on doit aussi passer outre certaines peurs, où on doit mettre nos émotions aussi un peu de côté. Je pense vraiment, et j'ai toujours pensé que en tant qu'artiste ou en tant que photographe professionnel, le sujet le plus difficile, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est celui de sa propre famille. C'est d'affronter les siens. Et notamment d'affronter la douleur, la mort. Parce que vous savez, c'est très facile. Moi, j'ai quand même parcouru le monde et des reporters, et tous les autres reporters aussi, et certains beaucoup plus que moi, qui font la guerre et tout. On passe notre temps quand même souvent à photographier, à documenter la misère, la douleur des autres. Quelque part, et c'est notre rôle, hein, et je pense qu'il faut continuer à le faire. Mais quelque part, c'est un peu facile, parce que c'est nous, après on part, on garde une distance. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus douloureux de prendre l'appareil photo et de maintenir une distance, parce qu'en tant que photographe, on doit maintenir une distance avec sa propre mère quand elle est, elle a perdu la mémoire et elle est en fait au seuil de la fin de sa vie.
Alors, pour le moment, vous êtes au septième ciel, Patrick Zachmann. Ce n'est pas la tragédie qui vous obsède en ce moment, c'est la beauté du monde et la beauté d'une cathédrale la plus belle du monde et que tous les gens du monde entier nous envient. Je vous propose d'écouter Brassailles, un de vos collègues, n'est-ce pas, que vous aimez bien.
Oui.
Brassailles qui va nous expliquer comment il a réussi à monter sur Notre-Dame de Paris et dans Notre-Dame de Paris, la nuit. C'est une archive INA non datée.
J'avais toujours envie de monter sur Notre-Dame la nuit et c'était impossible puisqu'on ferme à 5 heures la visite officielle. Alors j'essayais de corrompre la concierge et alors je lui offrais 100 francs et elle m'avait dit « J'ai tort, monsieur, j'ai tort », mais elle a pris l'argent et puis elle m'a donné rendez-vous, elle m'a montré un réverbère. En bas, il a dit, soyez là à 9 heures. Alors elle a sorti, elle était là avec un énorme trousseau de clés. Et puis alors nous commencions à monter sur l'escalier en colimaçon. Et elle m'avait dit qu'elle monte seulement une fois par jour parce qu'elle a une maladie de cœur qui lui empêche de monter 250 marches par jour. Elle a emmené son casse-croûte et quand nous sommes arrivés tout à fait en haut, elle a dit, n'est-ce pas monsieur ? C'est tout de même, c'est autre chose que la Tour Eiffel. Alors je suis monté encore plus haut et elle m'avait dit, je vous fais confiance, si vous voulez monter plus haut, je reste là. Alors je suis monté Et deux fois, j'ai marché sur quelque chose d'un peu mou, et c'était des pigeons encore trop chauds, morts, parce que les pigeons meurent aussi.
Nous venons d'entendre le témoignage de Brassailles.
Extraordinaire.
Qui est goulayant, comme on dit. Donc vous avez un illustre collègue qui vous a précédé dans votre tâche. Mais Brassailles a soudoyé la concierge de Notre-Dame. Vous, vous n'avez pas eu besoin de le faire, Patrick Zachmann. Par contre, votre livre qui sort en ce moment et qui raconte cette expérience depuis l'incendie de Notre-Dame jusqu'à sa reconstruction, est préfacé par un général d'armée, Jean-Louis Georgelin, qui veille donc, grâce au président de la République, Emmanuel Macron, au suivi de cette reconstruction. Vos photos sont absolument incroyables. Mais par contre, là, j'ai l'impression que vous vous êtes mis en danger pour aller tout en haut de Notre-Dame. Et vous avez dansé sur le toit de Notre-Dame pour regarder
C'est vrai
le monde de là-haut.
C'est vrai que c'est un immense privilège, celui que j'ai, d'avoir un accès quasi permanent pour suivre et documenter tout le processus de sécurisation, d'abord, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, et puis ensuite de restauration et de reconstruction. C'est vrai que c'est un immense privilège, grâce à un partenariat entre Magnum Photo et l'établissement public, qui me permet d'admirer depuis le haut des tours, comme l'a décrit la Brassailles, au passage que j'admire énormément, mais aussi de la tour Grue qui est de 90 mètres de haut et d'arriver à des fois avec les échafaudages qu'il y a, c'est absolument impressionnant et extraordinaire, hein, et on se retrouve nez à nez en face de vitraux.
De métier. Qui prennent des risques considérables dans une scientificité absolue.
Oui, les corps de métier, ces artisans qui sont vraiment très très concernés. Là, on peut parler de fierté. Alors là, ils sont fiers de faire partie, en fait, de l'histoire. Ils le savent. Quand vous dites des risques, bien sûr, c'est un chantier, hein, donc c'est risqué. Mais franchement, jusqu'à présent, il y a eu zéro incident. C'est assez extraordinaire, mais c'est vrai que la sécurité est partout. Et c'est tant mieux. En tout cas, cette expérience est d'ailleurs qui continue, parce que je vais continuer à documenter jusqu'à la fin des travaux.
C'est quand ?
Ah, on sait. Enfin, si, c'est normalement. C'était 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Donc, c'est pas très. Je sais plus si c'est défini, mais c'est 2000. Si, c'est au moment des Jeux Olympiques. 2025. Je ne sais pas si tout sera terminé, mais en tout cas, je crois que la mission de l'établissement public se termine à ce moment-là.
Ça ne vous empêchera peut-être pas de continuer à faire des voyages, Patrick Zachmann.
Non, bien sûr que non. Ben non, ça ne m'empêche pas. Non. Mais bon, en même temps, bien avant le Covid, moi, j'avais décidé de moins voyager. Parce que voilà, je suis un peu fatigué et saturé des longs voyages. Et vous savez, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous qu'il suffit des fois d'aller pas très loin pour photographier des choses assez spectaculaires ou tout simplement ordinaires, mais dont personne ne parle.
Au coin de la rue, l'aventure.
Oui.
Alors, dernière question, Patrick Zachmann, à la fin de l'ouvrage qui va accompagner cette exposition qui va commencer le 2 décembre au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, il y a une liste de remerciements. Il y a les remerciements aux familles, votre propre famille, les familles qui vous ont aidé. Et puis, le dernier remerciement, c'est la famille Magnum, à laquelle vous appartenez. C'est une agence, mais c'est aussi une famille. Pourquoi ?
Ben oui, parce que je pense que d'abord c'est on n'est pas trop nombreux parce que c'est difficile d'y rentrer et c'est ça c'est vrai que c'est un peu un honneur d'y être et ça fait tellement longtemps aussi moi que j'y suis que cette agence existe depuis 47 fondée par Capa, Henri Cartier-Bresson, donc on fait partie en fait d'une histoire commune et puis on a des valeurs qu'on essaye de perpétuer. Bon, c'est pas toujours simple parce que les nouvelles générations pensent pas comme nous, mais donc il y a un peu des conflits, des luttes, hein. Il faut pas le cacher, mais on est là, on se maintient, on est la seule, je crois vraiment on peut dire, grande agence photographique internationale à avoir résisté et à ne pas avoir été rachetée par une banque ou comme toutes les autres ça a été le cas. Donc c'est une famille parce que c'est une famille aussi, je pense, de valeurs et des camarades, comme disait Henri Cartier-Bresson. Il appelait voilà les collègues des camarades, des copains.
Merci le copain Patrick Zachmann. Donc double actualité, un livre Voyage de mémoire qui sort aux éditions Mage et Atelier EXB et une exposition qui commence à Paris au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à partir du 2 décembre.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Thank you.
C'était Émilie Loiseau, Le poids de l'existence. Merci à Julien, Julien Dumont, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et Camille Maty qui ce soir a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Sayas pour son Very Good Trip.